RMC jusqu'à 14h. Motors, Patrick Rivet.
Salut à tous, à une semaine de la reprise du championnat du monde de Formule 1. Ce sera à Spa-Francorchamps et ce sera bien sûr en direct sur RMC, la radio officielle de la Formule 1. On va aborder l'info de la semaine avec l'arrêt de cette Formule 1 de Fernando Alonso. On va retrouver tout cela dans quelques instants avec Lucas Vinoy et bien sûr avec notre autre expert, Jean-Luc Roy.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Effectivement, on va tout de suite s'intéresser à l'actu brûlante de la semaine. Bonjour Lucas.
Salut Patrick, salut à tous.
Et puis bonjour Jean-Luc, merci de nous retrouver sur, comme toujours, fidèle à tous les dimanches ou presque de l'année. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Patrick, salut Lucas, bonjour à tous.
Alors l'info, je le répète, c'est l'arrêt de la Formule 1 de Fernando Alonso. Avant même d'analyser tout cela, de développer tout cela, d'évoquer ensemble les conséquences de cet arrêt, je vous propose tout de suite d'écouter traduit la réaction et le message d'adieu de Fernando Alonso.
Tu ne m'attendais pas et je n'étais pas sûr de vraiment avoir envie de te connaître. Je savais à peine marcher que ton bruit et tes circuits m'attiraient pourtant déjà, alors que je ne savais rien de toi. On a vécu de bons moments, certains mémorables, d'autres plus difficiles. On a joué tous les deux avec des pilotes incroyables. Tu as joué avec moi et j'ai appris à jouer avec toi aussi. Je t'ai vu changer, parfois pour le meilleur et parfois, selon moi, pour de mauvaises raisons. À chaque fois que je baissais la visière de mon casque, j'ai senti ta chaleur, ton énergie. Il n'y a rien de tel. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres grands défis à relever que tu ne peux pas m'offrir. Je voudrais retenir de cette année que je te quitte à mon sommet. Je ne peux qu'être reconnaissant envers toi et les gens que j'ai croisés pour m'avoir inculqué tant de culture, de tradition, de langue. Des gens merveilleux qui ont fait ma vie. Je sais que tu m'aimes. Sois certaine que je t'aime aussi.
Por haber sido mi vida. Sé que me quieres. Y tú también sabes que te quiero.
Voilà donc le message chargé et d'émotion, peut-on dire, de Fernando Alonso qui, après donc 303 Grands Prix pour l'instant, et d'autres encore, il va aller jusqu'à la fin de la saison, a donc pris la décision, pas véritablement une surprise, la décision que vient de prendre dans la semaine. Fernando Alonso, je me tourne vers toi Jean-Luc, tout de suite, déjà à chaud, ta réaction à ce message d'adieu de Fernando Alonso, ou de revoir plutôt d'ailleurs.
Bah écoute, sincèrement, la première réaction, c'est la tristesse, hein. C'est la déception. Comme tu dis, on s'y attendait, on le redoutait même, j'ose le dire, parce que Fernando, c'est un pilote magique, c'est un pilote d'exception, qui a 37 ans maintenant, depuis les derniers jours de juillet, a toujours la même passion, comme il l'a dit lui-même, pour le sport automobile, pour la Formule 1. C'est quand même un personnage formidable, avec ses deux titres de champion du monde. Alors, tous, évidemment, puisque malheureusement, on peut craindre qu'il en reste là. Il est au niveau de Jim Clark, de Mika Hakkinen, de Graham Hill. Enfin, je vais pas tous les citer. 32 victoires en Grand Prix. Et c'est une personnalité formidable. C'est un catalyseur. Et moi, je dis que c'est une perte énorme pour la Formule 1. On pouvait le craindre, puisque depuis trois saisons, hein, maintenant, depuis ce règlement, et tu sais que je ne mâche pas mes mots, depuis 2014, outre les mauvais résultats malheureusement qu'il a enregistrés avec McLaren Honda et aujourd'hui avec McLaren Renault, ça n'a pas entamé sa passion pour le sport automobile, mais malheureusement ça a entamé sa passion pour la Formule 1, ben, quoi qu'il en dise, sinon il partirait pas probablement vers Indy. Et puis il faut le rappeler, je sais que tu vas en parler, vers l'endurance naturellement, il a gagné Le Mans, oui il a d'autres défis et notamment Indianapolis.
Effectivement, et d'ailleurs Lucas, on peut noter une phrase hein, qu'il a dite dans ce message. C'est tu as beaucoup changé pendant donc cette période de vie commune, si l'on peut dire. Tu as beaucoup changé, parfois pour le bon, parfois pour le moins bon. Il le souligne quand même. Et quelque part, toi qui le suis sur les Grands Prix, c'est peut-être aussi cette atmosphère, ce besoin pratiquement de faire de l'endurance en Formule 1 qui franchement le déçoit aujourd'hui, plus que le manque de résultats peut-être.
Bien sûr, quitte à faire de l'endurance en Formule 1, quitte à faire plutôt de l'endurance tout court en fait, tout simplement. Fernando Alonso l'a dit, c'est sûr que Fernando Alonso, il est arrivé au début des années 2000, la Formule 1 était complètement différente, les moteurs n'étaient pas les mêmes, il y avait à l'époque des ravitaillements, en fait il a presque changé de sport, il a suivi ce sport mais qui a tellement évolué, qui s'est tellement muté, qui a tellement changé, qu'est-ce qu'on peut vraiment parler de même sport? La Formule 1 du début des années 2000 n'est pas la Formule 1 de la fin des années 2010, bien évidemment elle ne lui convient plus, ça lui convient moins, c'est moins ce qu'il aime, c'est pour lui c'est peut-être aussi moins ce que doit représenter le sport automobile. On sait aussi que la voiture dont il dispose actuellement ne lui permet pas d'aller jouer devant, mais comme le disait Jean-Luc, c'est une perte énorme. Il faut quand même le rappeler, Fernando Alonso, c'est celui qui a mis fin au règne de Michael Schumacher. C'est quand même pas rien. Alors son premier titre, c'est vrai qu'il avait une monoplace largement meilleure que celle de l'Allemand, mais son deuxième titre, les deux voitures, la Renault et la Ferrari de Michael Schumacher, sont quasiment à même niveau. Donc Alonso a battu sur la piste Michael Schumacher, qui reste le champion du monde incroyable de la Formule 1 avec 7 titres. Donc oui, la Formule 1 s'est mutée, elle ne lui convient plus, lui a d'autres objectifs, il la quitte, mais attention, ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu, puisque si il a la possibilité de revenir en 2021, écoute, il pourrait peut-être revenir.
Moi ils le disent tous, hein, Jenson Button l'a dit aussi, avant même de continuer sur ce thème, je vous propose justement de réentendre, de réécouter ce qu'a dit Fernando Alonso justement sur, allez, un petit peu les dérives, est-ce qu'il ne lui, sur ce qui ne lui plaît pas dans cette Formule 1 actuelle.
C'est vrai que lors des dernières années, et surtout depuis la nouvelle réglementation moteur, les courses sont devenues prévisibles. Il reste encore 14 week-ends de Grand Prix jusqu'à la fin de saison et nous savons tout ce qu'il va se passer. C'est quelque chose de propre à notre sport. Le Brésil, l'Allemagne et l'Espagne sont favoris de la Coupe du Monde, mais personne ne peut affirmer qu'une de ces équipes sera championne du monde. En revanche, tout le monde peut garantir que Ferrari ou Mercedes va gagner la course.
Voilà, effectivement, il abonde dans votre sens et c'est un petit peu logique, Jean-Luc. Ce côté prévisible, on parlait tout à l'heure du fait qu'il allait peut-être en IndyCar. En IndyCar, un ancien champion de la discipline qui se nomme Simon Pagenaud disait la même chose. Il disait, au moins en IndyCar, on peut partir 20e sur la grille de départ et gagner la course. C'est effectivement en Formule 1, aujourd'hui, à part le top 3, on sait que personne ne va sortir du chapeau comme ça.
Ben bien sûr, Patrick, écoute, je vais oser dire que le talent en Formule 1 n'est presque plus reconnu. Alors c'est pas insultant pour Lewis Hamilton ou pour Vettel. Encore une fois, c'est ce règlement 2014, j'y reviens. Tu sais que je suis désolé de voir ça. Encore une fois, c'est mon sport, c'est celui qu'on adore tous ensemble, mais là je ne le reconnais plus non plus. Il y a des dimanches où je me dis mais à quoi ça sert tout ça? Alors il y a une concurrence virtuelle, mais comme l'a dit Fernando, c'est de la gestion. Tu gères la consommation, tu gères les organes mécaniques, tu ne peux plus les changer, tu gères les pneumatiques, donc c'est plus de la Formule 1, c'est plus de l'attaque. C'est plus le plaisir de conduire. Et ça, c'est le vrai problème. Tu sais, Fernando, il avait dit il y a quelques années, lors de ce changement 2014, il avait dit, moi, j'ai commencé la Formule 1, c'était des V8 3 litres 5. Après, on est passé à des V8 3 litres. Après, on est passé à des V8 2 litres 4. Et puis des V6 1 litre 6. J'arrêterai la Formule 1 avant que ce soit des moteurs de 1 litre. 2000 cm3 à 3 cylindres, ben c'est ce qu'il fait.
Voilà. Oui, c'est ça. Bah, il est tout à fait fidèle à ce qu'il a évoqué. Et puis, j'oserais dire aussi quelque chose. Nico Hülkenberg y a touché aussi. Il y a même également remporté les 24 heures du Mans. Il a eu quelque part aussi la chance de piloter autre chose qu'une Formule 1. Et ça peut-être était ça, Jean-Luc, tu ne me détromperas pas peut-être, un des déclics, c'est qu'il a piloté la Toyota en endurance, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui l'endurance, eh bien c'est presque moins de gestion pneumatique et moteur que la F1, et puis il a conduit en IndyCar, où il n'y a pas de direction assistée, où il n'y a pas tout ça, et où manifestement il s'est régalé aussi.
Ah ben écoute, là, pareil, tu sais ce que je vais te dire. Il y a encore des endroits, heureusement, dans le sport automobile, et le rallye, je sais que tu vas en parler tout à l'heure, en est l'illustration, où il faut des pilotes couillus. Le courage, tu sais, ce vieux mot, eh ben ça sert toujours à quelque chose pour obtenir des résultats. Et je crains malheureusement qu'en Formule 1, à quelques exceptions près, attends, je veux pas dévaloriser, surtout pas les pilotes qui n'y sont pour rien. Eux, ils font le mieux possible en fonction d'un règlement. Mais le règlement, et je suis désolé de le dire, il est débile dans certains domaines, notamment la partie technique, notamment la partie pneumatique, notamment ces histoires de pénalités. Tout ça, ça ne peut pas enthousiasmer un pilote courageux et talentueux comme Fernando.
Effectivement, Lucas, je me rappelle aussi d'une phrase depuis le début de la saison de Mika Hakkinen, qui à un moment donné a carrément dit, ah ben 4 moteurs, nous on avait ça dans un week-end de Grand Prix à mon époque. Et effectivement, à un moment donné, la F1 doit rester un sport qui, peu importe le nombre de moteurs qu'on utilise dans le week-end, le principal c'est la performance en fait.
C'est la performance, mais c'est surtout que le règlement se perd en fait à vouloir faire trop d'économies. En fait, ça coûte beaucoup plus cher, puisque aujourd'hui on a le droit à 3 moteurs par saison. 3 moteurs par saison, en fait, il en faut 6 en réalité, puisqu'au cas où il y a des problèmes, les constructeurs moteurs en font 6. Mais fiabiliser à ce point 6 moteurs par saison, parce que 3 moteurs, en fait, en réalité, il faut faire 7 courses avec un seul moteur, c'est considérable. Quand on sait la vitesse à laquelle les Formule 1 roulent et puis la puissance qu'un moteur doit déployer, surtout maintenant avec l'énergie électrique qu'il peut y avoir à l'intérieur, c'est quand même absolument dingue. Et Cyril Abitboul, qui est quand même le team manager de Renault, nous confiait que c'était un problème parce que ça coûte finalement plus cher de fiabiliser 6 moteurs plutôt que d'en avoir 8 ou 10 pour la saison entière.
Effectivement. Je reviens à Fernando Alonso, si tu veux bien, ainsi Jean-Luc, pour évoquer, moi, ce que j'appellerais presque le syndrome espagnol. Je fais référence à Carlos Sainz Senior, le père de Carlos Sainz Junior, on va y revenir un petit peu plus tard, qui va prendre la succession d'ailleurs de Fernando chez McLaren. Deux titres de champion du monde pour Carlos Sainz, deux titres de champion du monde pour Fernando Alonso, c'est peu au regard de la vista de ces pilotes, et je voulais avoir ton avis justement là-dessus par rapport à Fernando.
Alors c'est vrai, tu as raison Patrick, il y a un parallèle, parce que là aussi, c'est le fier Iber, hein, tu me pardonneras ce raccourci, Carlos Sainz également, c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté dans le sport automobile, dans le monde des rallyes, mais également dans le monde de la Formule 1, bien évidemment. Son fils est bourré de talent. Bon, il a une trajectoire qui devient, malheureusement pour lui, un peu erratique, pour les raisons évoquées également par Lucas. Moi, je vais juste te dire une chose, avant de répondre encore à ta question, c'est que le budget moteur, ce que j'ose appeler la grande époque de la Formule 1, tu sais, quand il y avait encore des moteurs Cosworth ou des moteurs turbo qui coûtaient beaucoup moins cher, quand on avait $1 million de dépenses, c'était le bout du monde, et c'était même beaucoup moins que ça pour les équipes privées. Aujourd'hui, tiens-toi bien, officiellement c'est $12 million dans la réalité. Tu peux en parler, à Cyril Abitboul ou à qui tu veux, ou à Fred chez Sauber, c'est entre 20 et 25 millions de dollars consacrés à ces 3 pauvres moteurs. C'est une honte, c'est un scandale, ça ne sert à rien du tout, et c'est tout cet argent est dépensé pour rien du tout, en tout cas pas pour du spectacle. J'en reviens à ton parallèle, écoute, il faut espérer à Carlos Sainz Junior de marcher sur les traces de son papa, tu vois ce que je veux dire, et de décrocher, ou de Fernando, et de décrocher lui aussi un jour 2 titres de champion du monde.
C'est vrai, Lucas, récemment, Jody Scheckter, bon, il faut toujours regarder et écouter ce que disent les gens, même si parfois ça semble être un petit peu des bêtises, et je mets le mot bêtise entre guillemets, a dit que Fernando Alonso était un pilote surestimé. On ne peut pas être d'accord avec la réflexion du champion 79, Jody Scheckter, puisqu'au contraire, on peut penser que malgré justement le fait qu'il n'ait eu que 2 titres, Fernando Alonso était sans doute un des pilotes, voire peut-être le pilote le plus complet, le plus rapide de la Formule 1 de ces 17 dernières années presque.
Bien sûr, parce que en plus quand il est champion du monde, Fernando Alonso, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque ce qui avait été écrit en Angleterre, en France, mais tout le monde disait que c'était celui qui allait chercher Michael Schumacher en fait, et que c'était le seul capable de faire ça. Alors aujourd'hui, ça paraît dingue, c'est vrai qu'il ne compte que 2 titres. Oui, 2 titres pour Fernando Alonso, 2 titres de champion du monde, c'est incroyable, mais c'est vrai qu'on a envie de dire 2 titres pour Fernando Alonso, c'est pas beaucoup. On pourrait penser qu'il devrait être l'égal d'Hamilton, de Vettel, mais aujourd'hui dans le paddock, pour répondre entre guillemets à Jody Scheckter, tout le monde le sait que Fernando Alonso c'est peut-être le meilleur pilote du plateau. Certains, beaucoup même, le placent devant Lewis Hamilton. Alors il a quelque chose en plus que Lewis Hamilton, Fernando Alonso, c'est que c'est un passionné de sport automobile en général, qu'il va faire de tout, de l'IndyCar, de l'endurance, qu'il fera peut-être d'autres disciplines plus tard, alors que Lewis Hamilton, semble-t-il, après la Formule 1, ne fera pas autre chose.
Ben voilà, c'est là aussi où effectivement on va aborder l'avenir de Fernando Alonso. Jean-Luc, moi je trouve qu'il est extraordinaire aussi. J'aimais beaucoup et j'ai continué d'apprécier le pilote en tant que tel. Par rapport justement au grand prix qu'il a pu nous offrir, y compris dans ses échecs. On parlait du fait qu'il n'a pas décroché plus de 2 titres. On se rappelle de ce grand prix d'Abu Dhabi de fin de saison où il aurait très bien pu, avec Ferrari, décrocher un 3e Graal. Mais là où il est, où franchement, moi, il m'impressionne, c'est justement dans cette volonté affichée aujourd'hui d'aller goûter à d'autres succès, d'aller goûter à d'autres disciplines et de ne pas avoir le regard méprisant de certains sur les autres disciplines du sport automobile, y compris à plus haut niveau.
C'est un passionné, c'est avant tout, Fernando, un passionné de sport automobile sous toutes ses formes, partout où son talent peut s'exprimer, partout où sa passion peut s'exprimer, il va. Donc effectivement, ça n'est pas du tout une surprise, comme tu le disais très justement. Puis moi, j'aime ces pilotes à l'ancienne. Encore une fois, je suis désolé, on va encore me dire que c'était mieux avant. Mais c'est vrai, parce que avant, des gens comme Jim Clark, enfin la liste est extrêmement longue, Graham Hill ou qui tu veux, ils allaient dans d'autres disciplines exprimer leur talent. Et voir aujourd'hui Fernando, effectivement, avec 32 ou 34 week-ends de course pour la saison 2018, c'était pas du tout extraordinaire dans les années 50 ou 60. Hein. T'avais même des pilotes de F1 qui faisaient du rallye également. On a vu Raikkonen d'ailleurs aller faire du rallye.
Bien sûr.
Donc y a pas de raison. C'est du moment que tu aimes ce sport, tu l'aimes sous absolument toutes ses formes. Donc comme tu viens de le dire, Fernando, on le sait bien, il poursuit la triple couronne et moi j'ose dire maintenant la quadruple couronne. Parce qu'il est double champion du monde de Formule 1, il est bien sûr vainqueur du Grand Prix de Monaco, double vainqueur du Grand Prix de Monaco, il est maintenant vainqueur des 24 heures du Mans. S'il décroche les 500 miles d'Indianapolis, il sera vainqueur de quatre titres majeurs, de quatre victoires majeures, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a que Graham Hill qui a fait ça.
Effectivement, et on peut s'attendre justement, on se rappelle, on l'avait évoqué dans cette émission, Jean-Luc, et effectivement le fait que on sait que McLaren est en contact avec l'équipe Andretti aux États-Unis, qui reprend d'ailleurs la compétition ce week-end à Pocono, et Andretti avait plus ou moins fixé comme ce week-end-ci, comme deadline, si je puis dire, pour que McLaren et Alonso puissent déclarer s'ils veulent faire l'IndyCar et Indianapolis la saison prochaine. Bon, le fait qu'Alonso ait annoncé son départ de la Formule 1 dans la semaine, ce n'est pas non plus complètement innocent au fait que peut-être qu'on pourrait s'attendre dans les jours qui viennent à une annonce officielle, soit de McLaren, soit d'Alonso tout seul, d'ailleurs pourquoi pas, pour rejoindre l'IndyCar et les États-Unis.
Tu veux que je te dise, de toute façon, McLaren et Zak Brown, il faut quand même le citer, parce que maintenant, le prochain sur la liste pour le faire sauter, c'est lui, puisque on l'a vu, Eric Boullier, plusieurs responsables techniques ont quitté le navire qui est en train de couler, malheureusement, qui prend haut de toutes parts, cette magnifique équipe McLaren. Faut voir ce qu'ils ont réussi à faire en 3 ou 4 ans, c'est un carnage. Effectivement, il y a du savoir-faire, il y a de l'expérience, mais en reste-t-il beaucoup? Donc je crois qu'effectivement, pour essayer de garder Alonso dans le giron de McLaren, de ce qu'il en reste, parce que personne n'est dupe, même si l'an dernier, officiellement aux 500 miles d'Indianapolis, comme tu le disais, il a roulé dans une voiture co-engagée par McLaren et par Andretti. Mais bon, c'est du bidon, tout ça, c'est une vraie équipe américaine qui l'engage. Et je pense que Fernando, il a la liste, tout le monde veut l'engager, tu penses bien, avec le talent et avec ce qu'il a démontré l'an dernier, puisque de mémoire, il a mené 21 tours aux 500 miles, il a eu malheureusement une casse moteur, hasard, d'un moteur Honda à 27 tours de l'arrivée, mais il était capable de remporter les 500 miles dès sa première participation. Donc que McLaren soit dans le coup ou pas, ça n'a aucune importance. Ce sera bien une équipe américaine, de toute façon, managée par des Américains, et ce sera un championnat américain.
Et on peut même rajouter que depuis Nigel Mansell, 1993, le monde des États-Unis n'avait pas été autant en effervescence à l'idée et l'envie d'accueillir un pilote de Formule 1 champion du monde.
Ah ben oui, là c'est fantastique. Eh ben écoute, là je l'ai vécu, je commentais l'IndyCar à l'époque en direct, je faisais toutes les courses sur place. L'arrivée de Nigel, c'était formidable, c'était quand même un événement absolument extraordinaire, comme tu le dis, champion du monde en titre. Il venait de quitter Williams-Renault avec paré de ce titre de champion du monde après lequel il courait depuis si longtemps, et il s'y est mis tout de suite, parce que pareil, Nigel, il était comme il était, mais c'était un pilote talentueux, c'était un pilote avec beaucoup de courage, et immédiatement il s'est mis dans le coup, il a commencé à gagner les courses, etc. Donc c'est un type tout à fait, le monde de, ça remonte à 25 ans maintenant, ça passe vite le temps,
oui.
Et je pense que les fans d'IndyCar et le public américain et du monde aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans d'IndyCar qui nous écoutent évidemment dans Motors, eh bien tout le monde attend avec plaisir de voir Fernando Alonso. Tiens, tu as évoqué Simon Pagenaud, je vais parler de Sébastien Bourdais, qui est dans une petite équipe, le Delcoin Racing, tu sais, cette année, avec des moyens infiniment moins important qu'Andretti ou Penske dont nous avons parlé, ou Chip Ganassi, eh bien, il parvient à faire des miracles avec
et gagner des courses.
Et ouais, parce qu'il a du talent et du courage, ce qui ne peut plus, malheureusement, tellement s'exprimer en Formule 1.
Allez, moi je vous propose, et Lucas, je te propose d'aller un peu plus loin maintenant, puisque voilà, ça y est, il est parti et l'info n'a pas non plus traîné, hein, puisqu'on a appris pratiquement dans la foulée, voire mais non, même pas pratiquement, j'enlève le mot pratiquement, dans la foulée, on a appris que c'est donc celui pour qui Alonso est une idole qui va le remplacer. On l'a évoqué tout à l'heure avec Jean-Luc, Carlos Sainz Junior, qui va donc prendre le baquet de son idole. Là aussi, quel symbole.
C'est ça, un Espagnol peut en cacher un autre. Donc oui, c'est Carlos Sainz Junior qui réalise une très très belle saison hein, cette année avec Renault, qui est un très bon pilote et donc qui va remplacer, comme tu le dis, son idole. Alors il y a un peu un désaveu quand même de Red Bull qui ne le fait pas monter dans l'écurie principale. Donc c'est vrai que Carlos Sainz n'a pas dû apprécier forcément cette nouvelle, mais bon, il trouve quand même un baquet dans une écurie mythique et forcément pour lui remplacer Fernando Alonso, ça représente quelque chose. On a vu plein de photos où notamment il était avec son père Carlos Sainz Senior et rencontrait Fernando Alonso pour la première fois. Les deux sont amis, les deux familles Alonso et Sainz sont très très proches. Donc oui, c'est sûr que ça représente quelque chose et on a presque envie de dire pour Carlos Sainz, c'est mieux de remplacer Alonso que d'être à côté de lui. On sait que c'est un broyeur d'équipiers, Fernando Alonso. Il y en a un seul qui lui a résisté. Il s'appelle Lewis Hamilton. Il est quadruple champion du monde. Donc oui, pour lui, c'est bien de remplacer Alonso et de pas l'avoir à ses côtés.
Et puis j'irai même plus loin. Autre futur broyeur d'équipiers, c'est Verstappen. Hein, c'est Max Verstappen. Donc autant ne pas également être aux côtés de Verstappen qui s'est mis toute l'équipe Red Bull et plus encore dans la pocket.
Bah ça c'est sûr. De toute façon, on l'a compris chez Red Bull, on roule pour Max Verstappen quand il y a eu des erreurs du jeune batave en piste et c'est normal. Il est jeune, il est fougueux, il a envie, il fait le spectacle. Même avec Daniel Ricciardo, on a dit que c'était 50-50, alors que franchement, de temps en temps, c'était de la faute de Verstappen. Donc c'est tout sur Verstappen, on mise tout sur lui. C'est lui le leader de l'écurie et on sait que parfois c'est difficile de cohabiter. Et d'ailleurs, la décision de Daniel Ricciardo de partir, de quitter le giron Red Bull après des années en son sein, elle est aussi liée à ça parce qu'il a très vite compris, il est très intelligent Daniel Ricciardo, il a compris qu'il fallait aller voir ailleurs si vous voulez vraiment avoir une chance d'être un petit peu tranquille.
Jean-Luc, Lucas, je vous propose de revenir dans quelques instants. On évoquera justement d'autres suites de ces doubles décisions et doubles informations, avec en particulier ce qui pourrait arriver aux pilotes français.
RMC Motors. RMC jusqu'à 14h. Motors. Patrick Rivet.
Allez, effectivement, on est bien dans Motors. On va évoquer toujours avec Jean-Luc Roy et Lucas Dinois les conséquences directes sur certains pilotes et en particulier les Français de toutes les infos que l'on a appris dans ce mois d'août.
RMC Motors, le French's Corner.
Effectivement, le French's Corner, et j'ai envie de commencer avec, on en parle pratiquement à chaque fois dans notre émission, mais cela reste également un des points d'interrogation de cette fin de saison. J'ai envie encore une fois, Jean-Luc, de parler d'Esteban Ocon. Pourquoi Esteban Ocon n'irait-il pas chez McLaren? On a entendu Zak Brown dire qu'il lui fallait des pilotes d'expérience. Avec Carlos Sainz, il a, d'une certaine façon, même s'il est jeune, un pilote d'expérience, puisque il en est déjà à sa quatrième saison de Formule 1. On pourrait presque dire la même chose d'Esteban Ocon, qui l'année prochaine en sera à sa troisième, avec déjà pas mal d'expérience engrangée.
Tu as raison, Patrick. Ce serait un bon choix. C'est un bon choix, Esteban. Hein. 29 points au championnat du monde, tu vois, ça tombe bien, Carlos Sainz en a 30. Donc effectivement, on est exactement dans le même registre. On peut rajouter que Gasly en a 26 et Perez 30. Donc tu vois, il y a vraiment 4 pilotes, 4 jeunes pilotes talentueux groupés en quelques points. Ça pourrait être un bon choix. Alors le seul tout petit problème, il peut être d'importance, c'est que Esteban Ocon est dans le giron de Mercedes, tu le sais depuis le début, et qu'effectivement Toto Wolff ne tarit pas d'éloges sur le talent du jeune Français qui prend la mesure de son bouillant équipier mexicain, Pérez. Donc, il faudrait qu'il sorte du giron Mercedes pour aller chez McLaren Renault aujourd'hui. Alors, c'est possible, hein, puisque je pense qu'on ne s'opposerait pas à la poursuite de la carrière à un haut niveau d'Esteban Ocon. C'est vrai que je pense qu'il a deux solutions, on va peut-être évoquer l'autre également, mais ça peut être une possibilité si Mercedes le laisse partir chez McLaren.
Lucas, nous on a beaucoup parlé avec Jean-Luc également la semaine dernière du fait que Sergio Pérez étant très proche quand même du fait qu'il, enfin, était un des personnes qui a fait en sorte que Force India soit racheté. On disait presque la semaine dernière, elle est son baquet, il est tout trouvé, il restera chez Force India. Mais après tout, il a été aussi pilote McLaren dans le passé. Il pourrait aussi y retourner, pourquoi pas?
Oui, il pourrait y retourner, c'est vrai, mais la tendance, elle est quand même plutôt à ce que Sergio Pérez reste chez Force India. Ça fait longtemps qu'il y est. Il a joué quand même un rôle énorme dans le maintien et dans la survie, en fait, de cette écurie. On le rappelle, qui a été rachetée par un consortium d'actionnaires piloté par le père de Lance Stroll, Lawrence Stroll. Donc Lance Stroll va sûrement trouver un baquet, mais c'est quasiment sûr, dans cette Force India. Et l'autre pourrait être et devrait être Sergio Pérez, qui a toujours amené beaucoup d'argent, notamment en Formule 1, grâce à des sponsors mexicains importants. On sait que ça joue, c'est un très bon pilote, mais un très bon pilote qui en plus amène de l'argent, c'est quand même important. Ça a toujours joué un rôle décisif en Formule 1. Donc normalement, le line-up, le duo de pilotes devrait être chez Force India Mercedes l'année prochaine, Stroll et Pérez, ce qui pousse en fait Ocon à trouver une porte de sortie. La porte de sortie, elle s'appelait Renault, mais on a vu que finalement il s'est fait passer devant, il s'est fait faire l'intérieur même par Daniel Ricciardo au dernier moment, une information qui a pris tout le monde de court, et donc Ocon se retrouve sans possibilité d'un coup, plus de Renault, et Toto Wolff s'active en tout cas sur le marché, et puis fait jouer ses contacts pour trouver en fait une place à Esteban Ocon, puisque on sait que les deux hommes sont très proches. C'est Toto Wolff qui gère, enfin via Mercedes, la carrière d'Esteban Ocon, et il est très important pour Toto Wolff qu'Esteban Ocon reste en Formule 1. On sait que Valtteri Bottas a une année de contrat l'année prochaine, plus une en option, mais si ça se passe pas très bien l'année prochaine pour Valtteri Bottas, Esteban Ocon pourrait sauter dans le deuxième baquet de la Mercedes. Donc il faut qu'Esteban Ocon reste en Formule 1, et la tendance l'amènerait chez McLaren à la place de Stoffel Van Dorn, le Belge qui est en difficulté, qui est en grande difficulté même face à Fernando Alonso depuis le début de la saison chez McLaren, que ce soit en qualification ou en course.
Jean-Luc, forcément à chaque fois que l'on évoque tout cela, et on peut voir ça un petit peu partout dans la presse, Esteban Ocon, il est interviewé dans ces cas-là, on lui demande son avis, et il continue de dire qu'il ne s'inquiète pas et qu'il n'est pas inquiet pour son avenir. Il a raison de le dire comme ça ?
Bien sûr qu'il a raison. De toute façon, il ne faut pas que les pilotes se prennent la tête avec ça. Ils sont tous managés. Lucas vient de le rappeler très justement. Il est managé par l'un des hommes les plus puissants de la Formule 1, Toto Wolff, qui croit, et il a raison d'y croire, en le talent et les qualités d'Esteban Ocon. Il l'a démontré largement une nouvelle fois. Donc, il va lui trouver quelque chose à l'évidence. Alors, j'évoquais la deuxième piste, c'est Williams, bien sûr, puisque dans ce cas, Williams, alors est-ce que c'est un cadeau? On va en parler. Mais Williams a touché le fond. Et tu sais, dans le fond, quand on touche le fond de la piscine, on met une grande impulsion et puis on remonte vers la surface. Donc, on peut espérer qu'avec l'apport qui sera non négligeable du talent d'Esteban Ocon, puisqu'actuellement, on a deux pilotes payants chez Williams, et puis avec peut-être maintenant l'ensemble des organes mécaniques délivrés par Mercedes, ça pourrait faire partie également de l'appoint et de l'appui de Mercedes. Moi, je pense que c'est une belle piste également. Donc, soit McLaren, qui on l'espère aussi, va remonter vers la surface après avoir touché le fond avec ce moteur Renault, et aux côtés de Carlos Sainz Jr., ça ferait une superbe équipe. Les deux jeunes pilotes vont se pousser très fort en avant. Soit chez Williams, avec toute une mécanique Mercedes, et peut-être ça deviendrait l'une des équipes juniors de Mercedes, ce serait plutôt pas mal également pour Esteban. Il a raison de pas se faire de cheveux, en fait.
Effectivement, moi je serais un petit peu d'accord avec toi, pas de cheveux à se faire, donc effectivement on pourrait le retrouver, quoi qu'il arrive, en Formule 1 la saison prochaine. On a pas mal évoqué le cas Esteban Ocon, nous avions déjà évoqué ensemble le cas de Pierre Gasly. Moi, je vous propose également de continuer d'évoquer un petit peu le cas et les débuts de saison, de mi-saison, à ce point de la mi-saison des pilotes français. Et j'ai envie que l'on évoque également Romain Grosjean. Après tout, Romain Grosjean, on le sait, début de saison un petit peu cauchemardesque, avec un beau retour en forme à la fois de l'équipe et puis de son équipier, Damien Hussein, mais également de Romain Grosjean. Romain Grosjean, que je vous propose d'écouter lui-même faire un petit bilan de cette première demi-saison.
Le début était difficile, je pense les dernières courses on a bien dressé la barre et on est revenu à mon niveau. Hier sans Max, tu vois, qui est parti à 8e sur la grille, donc déjà ça aurait changé pas mal la course. Je pense qu'en Allemagne j'ai fait ce qu'il fallait, en Autriche j'étais bon aussi, donc voilà, je pense que là les choses sont revenues là comme elles devaient, et puis effectivement ça va faire du bien de prendre un peu de repos et surtout de revenir sur les circuits, on pourra se faire plaisir à doubler.
Voilà, se faire plaisir et doubler, référence à la longue montée après le Rédillon, puisqu'on va commencer avec Spa. Je me tourne vers toi, Lucas, puisque tu es l'envoyé spécial d'RMC sur les Grands Prix de Formule 1. Tu es, on va dire, Allez, tu as le privilège de voir la tronche que fait Romain Grosjean depuis le début de la saison. Est-ce que tu as vu réapparaître le sourire et le regard pétillant depuis quelques Grands Prix donc ?
Il est surtout soulagé, Romain Grosjean, de retrouver enfin le chemin des points. C'est vrai que ça a été compliqué, la Haas est performante depuis le début de la saison et lui, il n'a pas réussi à scorer, à marquer des points au championnat du monde. Il a été longtemps dernier avec Brendan Hartley, ça a été une situation compliquée à vivre. On se rappelle de son accident à Bakou derrière la safety car, on se rappelle aussi de son erreur en Espagne où il part en tête à queue au milieu du peloton. Ça a été des moments difficiles pour Romain Grosjean, il s'en est pas caché, il a reconnu après coup, c'est vrai que sur le coup il a eu du mal à reconnaître ses erreurs, mais il l'a fait par la suite et il a digéré ces moments-là et maintenant ça va mieux, il parvient à faire des résultats, à montrer que sa monoplace est réellement performante comme le fait Magnussen depuis le début de la saison. Alors il est 14e, il a 21 points, c'est vrai qu'il est en retard. Il a 24 points de retard sur Kevin Magnussen parce que c'est vrai que ses résultats du début de saison ont été quand même très compliqués, il faut le dire. Mais ça va mieux et c'est surtout important puisque la période du mois d'août est une des périodes clés pour Gunther Steiner qui est le team principal de l'écurie américaine Haas pour décider du duo de pilotes de l'année prochaine. Magnussen et Grosjean n'ont pas encore de contrat. Donc voilà, il fallait faire des bons résultats avant la trêve. Romain Grosjean l'a fait et on espère pour lui que ça va continuer même après la trêve avec des circuits, comme il l'a dit, des circuits historiques où il va être possible de doubler.
Jean-Luc, les Haas sont performantes aussi parce qu'elles disposent désormais de la dernière version des moteurs Ferrari. Moteurs Ferrari qui ont cette année, Jean-Luc, la réputation d'être meilleurs, et en tout cas, certainement meilleurs que le groupe motopropulseur Mercedes. Ça aide forcément. Quelle est ton opinion justement, toi, sur tout cela et sur cette partie de saison que l'on a évoquée avec Lucas de Romain Grosjean?
Écoute, c'est clair que si on se réfère au classement constructeur, qui est quand même le plus parlant, un tout petit peu après la mi-saison, en tout cas au break, on a couvert 11 Grands Prix, on voit que Haas Ferrari totalise 66 points, Renault est quatrième avec 82, mais Haas précède Force India Mercedes, qui a eu également un début de saison difficile, 59 points, et McLaren Renault 52. Alors, comme on l'évoquait, Haas, oui, c'est la quatrième ou la cinquième force du plateau. Maintenant, comme Lucas vient de le dire également, Romain Grosjean, il a marqué moins de deux fois moins de points que son équipier Magnussen. Magnussen a marqué à 7 reprises, Grosjean à 2 reprises seulement. Donc certes, il a redressé la barre. Est-ce que c'est suffisant? Nous le saurons bientôt, mais c'est clair qu'il est en difficulté, Romain Grosjean, il faut pas se le cacher. Il n'a pas réalisé du tout le début de saison auquel il s'attendait. On le voyait plutôt au niveau de Magnussen, c'est pas le cas. Donc là, il va falloir que très rapidement, il continue à enregistrer de très bons résultats, parce que malheureusement, sinon, on peut se faire du souci pour lui, oui. Alors que la monoplace, et c'est bien ce qui mettait un peu en rage Gunther Steiner, elle vaut mieux que ça. C'est avec ce moteur Ferrari et ce groupe Ferrari extrêmement performant. Oui, on pourrait être quatrième du championnat. Effectivement, ce serait mérité pour l'équipe et se retrouver devant Renault.
Lucas, à Spa, justement, on peut penser, parce qu'on est déjà, on est pratiquement déjà en train d'aborder ce que va faire ce Grand Prix de Belgique, à Spa, puisque ça sera le retour la semaine prochaine de la saison. À Spa, les As, elles pourraient performer, effectivement, et pourquoi pas aller les deux pilotes en Q3.
Bien sûr, pour moi, il y a aucun doute. Pour moi, As, depuis le début de la saison, est la quatrième force du championnat. C'est sûr que sans les mauvais résultats de Romain Grosjean et son incapacité au début de saison à marquer des points, As serait quatrième au championnat. Il y a eu un Grand Prix où l'écurie américaine a été en délicatesse, c'était Monaco. À Monaco, c'est vrai que les As étaient nulle part, c'était très difficile, ils ont pas réussi à comprendre d'ailleurs pourquoi. Mais là, sur un circuit comme Spa, très long, avec de longues pleines charges, où il faut de la puissance moteur, on sait que la boîte de vitesse est Ferrari, le moteur est Ferrari, les suspensions sont Ferrari, c'est une Ferrari bis, là, il faut pas se le cacher, il faut dire les choses comme elles le sont, et ça plaira à Jean-Luc. Mais voilà, oui, sur un circuit comme Spa, en tout cas, les As doivent bien s'exprimer, et s'exprimeront vraisemblablement bien, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Et puis pourquoi pas, s'il y a des abandons devant. On sait que la fiabilité du moteur Renault, en tout cas à l'intérieur de la Red Bull, n'est pas toujours au rendez-vous. Donc oui, il y a un bon résultat à faire en perspective à Spa. Et puis derrière Monza, bien évidemment, le temple des moteurs, où encore une fois, les As devraient être à leur avantage.
Effectivement, j'ai une dernière question pour toi, Jean-Luc, si tu veux bien, avant de retrouver Claude Michi et parler MotoGP. C'est le point sur ce championnat, avec un Hamilton qui est en tête. tête, alors que franchement, qui l'aurait pensé il y a quelques grands prix? C'est Hamilton qui va arriver en tête du championnat à Spa-Francorchamps pour une reprise du duel avec Sébastien Vettel.
Eh oui, tu as raison, c'est la surprise. Alors pour cela, il a fallu qu'Hamilton, mais comme toujours, soit solide. À l'exception de l'Autriche, on l'a vu, deux abandons, évidemment, ce qui était terrible pour Mercedes, mais c'est pas vraiment de son fait, c'est même pas du tout de son fait. Sinon, il est toujours là, le quadruple champion du monde britannique, et il mène. Mais il faut rappeler que si Vettel avait pas commis cette grosse, cette énorme, cette monstrueuse erreur qui peut lui coûter le titre en Allemagne, où il était en tête et où il se fait bêtement piéger, il faut bien le dire. Alors ça arrive à tout le monde, je lui tape pas sur le casque, mais bon. Il l'a fait, il perd 25 points et du coup, évidemment, il en offre à Hamilton qui, dans ce cas, n'aurait été que deuxième. Et tu vois, la face du championnat eût été changée. Donc, il suffit d'une énorme erreur de Vettel pour qu'effectivement, ce soit Hamilton. Voilà, à mon avis, la clé, elle est là et pas tellement ailleurs.
Merci Jean-Luc, merci Lucas. On vous retrouve bien sûr en direct dès samedi pour justement ce Grand Prix de Belgique sur RMC, la radio officielle de la Formule 1. Dans quelques instants, on évoquera le MotoGP avec Claude Michi. À tout de suite.
RMC jusqu'à 14h, Motors, Patrick Rivet.
Et c'est le moment de faire le tour de tout ce qui se passe dans le monde de la compétition automobile et motocycliste.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Et oui, Radio Paddock, et on va justement aller dans un paddock deux roues, c'est pour parler MotoGP avec l'organisateur du Grand Prix de France Moto, Claude Michi. Bonjour Claude.
Bonjour.
Merci de nous retrouver sur l'antenne d'RMC, 25e année, faut-il le préciser, de l'organisation du Grand Prix de France Moto, avec cette année servie par un succès populaire incroyable, déjà parce que du fait du travail qui est effectué depuis ces longues années pour organiser ce Grand Prix. Et puis vous avez eu la chance aussi d'avoir un certain Joan Zarco qui ne cesse de monter en puissance depuis deux ans.
On a la chance d'avoir maintenant des pilotes français en MotoGP et ça c'est une très bonne nouvelle en plus qui montrent toutes leurs qualités et qui sont avec les meilleurs. Et en plus le MotoGP est quand même un spectacle assez fantastique. J'ai écouté tout à l'heure ce que vous disiez et ce que disait Alonso. Il y a une petite différence quand même des fois entre la Formule 1 et la moto. Et effectivement, le spectacle est au rendez-vous. Et avec, en plus, des pilotes assez étonnants comme Valentino Rossi, qui malgré ses 38 ans, continue d'être au firmament et va taquiner tout le monde. Non, c'est... Et puis Joan Zarco, qui fait une très très belle saison. Il faut savoir qu'il a une moto, pas d'usine, mais une moto satellite, donc qui a un petit peu moins de tours moteurs, etc. Alors en début de saison, il était avec les meilleurs. Et là, les motos d'usine ont progressé un peu. Et eux, ils ont toujours le même schéma. Et donc, ça devient un petit peu plus délicat. Mais il va faire une très belle saison. Il a bien marché au dernier Grand Prix, là, en Autriche. Et là, on va voir la semaine prochaine à Silverstone.
Alors justement, vous faites allusion, Claude, à la différence avec la Formule 1. Mais on se rend compte quand même que le monde du MotoGP a quand même pas mal évolué également depuis quelques années. Et que là aussi, on a quand même l'arrivée de l'électronique qui modifie quand même pas mal de choses, y compris dans les performances des pilotes.
Oui, je pense que l'approche qu'a eu la Fédération Internationale Moto avec Dorna qui gère le championnat du monde et les constructeurs est un peu l'antithèse de ce qui a été fait en Formule 1, c'est-à-dire par la FIA, avec un règlement qui est fait pour que les motos soient les plus proches les unes des autres et que le spectacle soit total. Vous aviez, moi j'étais au Grand Prix de République Tchèque, il y avait 17 pilotes en MotoGP dans la seconde. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Donc, il y a un travail en commun qui a été fait et qui, à mon avis, a été beaucoup plus porteur pour la qualité du sport et la qualité du spectacle. Peut-être la nouvelle réglementation Formule 1 2021 va prendre exemple.
Et effectivement, on lui souhaite d'ailleurs. Je voudrais revenir aussi sur autre chose que peut-être est en train de copier la Formule 1. Justement, ça tombe bien qu'on ait fait cette analogie. C'est le fait qu'en MotoGP, il y a véritablement la volonté d'avoir une équipe d'usine et une sorte d'équipe satellite derrière qui est là pour former les jeunes. Bien, la Formule 1 y arrive aussi un petit peu. C'est quelque chose d'important également pour vous. Ça va être votre regard d'organisateur, tout cela?
Bien, je pense que Dorna a réussi à mettre en place avec les constructeurs une vraie politique sportive, parce qu'on parle quand même de sport au départ, qui a permis à des jeunes d'arriver, à tous les grands champions des autres catégories, donc de monter l'étage. Et donc vous avez aujourd'hui des teams comme Honda par exemple, qui en plus a pris, il y a les Honda avec Marquez et Pedrosa, mais ils ont un deuxième team avec Ciccinello, qui sont plus que des motos d'usine aussi. Alors que chez Yamaha, ils ont pris une autre politique, c'est-à-dire que l'équipe satellite qui est celle de Tech 3, d'Hervé Poncharal, qui est une superbe équipe, a le matériel de l'année précédente. Bon, chez Ducati, ils ont le team officiel, mais ils ont aussi le team Pramac, où c'est des motos d'usine. Et donc, je pense que Yamaha est en train de changer un peu son approche. Et on va en parler tout à l'heure avec ce nouveau team qui va être...
Bien sûr.
Hervé Poncharal devient KTM, comme Johan Zarco, l'année prochaine. Donc, ce nouveau team Yamaha, soutenu par le circuit de Sepang et Petronas, va incorporer Emor Bidelli et un jeune pilote français. L'annonce officielle va être faite, je pense, la semaine prochaine.
L'annonce, effectivement, ça va être officialisé, mais on le sait, Fabio Quartararo, c'est de lui dont vous parlez, Claude, va donc lui aussi arriver en MotoGP, et c'est aussi pour cela qu'en tant qu'organisateur, déjà que vous aviez un succès populaire immense avec un, alors que dire avec deux?
Bah écoutez, je pense surtout que Fabio Quartararo est un jeune garçon, il a 19 ans, il a dominé le championnat d'Espagne. Bon, la presse, et on va pas se plaindre que la presse parle de moto, mais il l'a vraiment mis sur un piédestal quand il est arrivé en moto 3. Et il a fallu qu'il digère, je dirais, ce changement de statut. Il a changé aussi de team, notamment après en moto 2. Donc, il s'est relevé d'un certain nombre de difficultés, et je pense que ça lui servira dans l'avenir pour son expérience. Et cette année, il a fait un très beau début de saison, et il est revenu dans le top 10. Il a gagné à Barcelone, il a fait deuxième à Assen avec une course fantastique au bon moment, quoi. Donc il y a eu une opportunité pour lui de rejoindre les top pilotes en MotoGP.
C'est aussi d'un certain côté un changement de mentalité du monde de la moto, parce que le monde de la moto et du MotoGP depuis quelques années, c'était plutôt une coalition espagnole-Italie. Et là, de voir effectivement Quartararo, à la limite presque pour l'extérieur et pour ceux qui ne connaissent pas trop le MotoGP, c'est presque une surprise de retrouver Fabio Quartararo la saison prochaine dans la catégorie reine.
Vous savez, quand Dorna, qui gère ce championnat du monde, essaye d'équilibrer, on en parlait tout à l'heure, les performances des machines, la qualité du spectacle, ils sont aussi, ils regardent le côté international, bien sûr, des choses, et effectivement, essayent qui n'est pas que des pilotes italiens et espagnols. Et donc ça a été, je pense, une opportunité aussi, une volonté de Dorna. Eric Mahé, qui collabore, qui est le manager de Fabio Quartararo, a aussi très bien travaillé. Donc tout le monde a œuvré, je pense, et les performances de Fabio au moment idoine ont permis qu'il y ait cette opportunité. Et maintenant, il va falloir qu'il apprenne et qu'il prenne le temps. Et parce que il rentre dans une autre dimension.
Effectivement, parce que ce n'est pas, vous l'avez dit, Claude, n'importe quelle machine qu'il va piloter, c'est quand même la Yamaha M1. C'est une référence, cette machine, même si cette année c'est compliqué pour la firme au diapason, il n'empêche qu'il va piloter une sacrée machine en MotoGP la saison prochaine.
Oui, et puis on peut faire confiance aux gens de Yamaha de retrouver le meilleur niveau. Bon, on sait. C'est l'intérêt de la compétition aussi, hein. Nipox TE, après Honda, Ducati marche très très bien cette année, donc on a des courses fantastiques. Et c'est tout ce travail. Je pense que la moto a une forme d'humilité dans le travail que fait Dorna, pour toujours essayer d'avoir les meilleurs ingrédients qui viennent des constructeurs, des pilotes, si vous voulez, des organisateurs, pour que le spectacle soit total.
Je vais terminer avec vous, Claude, si vous le voulez bien, en évoquant, parce que vous êtes aussi organisateur, je l'ai dit, du Grand Prix de France, mais pas que, vous organisez également une grande fête, ça aura lieu au mois de septembre, sur le regretté circuit de Charade, qui n'est plus homologué aujourd'hui, mais qui a été le spa puisque la semaine prochaine, ce sera le retour du Grand Prix de Belgique à Spa. Ça a pratiquement été le Spa français quand il faisait un peu plus de 8 km, qui est revenu à une dimension, à une taille un peu plus humaine, entre guillemets. Mais vous allez y faire revivre, mais avec un petit peu de nostalgie, les courses d'antan. Vous allez recevoir Jackie Stewart, qui a gagné deux fois sur ce tracé. Parlez-nous un petit peu de cet événement.
Écoutez, on va faire les 60 ans du circuit de Charade, effectivement, qui est donc juste à côté de Clermont-Ferrand. Et on va faire revivre la légende, que ça soit auto ou moto, parce qu'il y a eu des fabuleux grands prix de moto, il y a eu des fabuleux grands prix de Formule 1. Donc on a la chance d'avoir Jackie Stewart, on va avoir Henri Pescarolo, on rend hommage à tout ce qu'a fait Guy Ligier dans ce monde de la Formule 1. Donc on fait la saga de tout ce qui était Ligier, on va avoir 17 voitures grâce avec Jacques Nicolet en Europe qui a repris cette marque. En moto, on va voir Giacomo Agostini, on va voir Phil Reed, on va avoir une cinquantaine de motos de collection de Grand Prix de l'époque. Donc l'idée, c'est de que les gens vivent l'émotion, passent un bon moment et voient aussi que notre territoire a été très performant sur le sport mécanique, hein. On est quand même un pays où on a le leader mondial du pneu avec Michelin, qui sera associé à cette opération. C'est évident que dans le cœur des Auvergnats coulent un peu les chromosomes du sport mécanique, hein. Donc on va essayer de faire revivre ça au mieux, avec des gens qui ont une carrière fantastique, comme Pierre Dupasquier, qui était pendant 30 ans le patron de Motorsport chez Michelin, de la compétition. Donc on a des vraies figures, on a des gens qui sont des vrais historiens et qui nous a permis, on a fait toute une équipe autour de nous pour essayer de faire le moins d'erreurs possible, d'avoir les plus belles voitures, que ce soit Matra F1, que ce soit Ferrari 250 GT, on va avoir Ferrari P2 qui a gagné en 66 avec David Piper. Il y a vraiment des autos magiques. C'est Christian Mille va venir avec la John Player spécial à l'Opus 72. Donc, on a vraiment des choses étonnantes et j'espère que tout le monde prendra le plaisir le 22 et le 23 septembre sur le circuit de Charade.
Merci. Belle conclusion en tout cas. Et on espère que vous aurez beaucoup de visiteurs. Vous en avez déjà puisque les festivités ont déjà commencé avec quelques expositions. Merci Claude Michy d'être venu nous rendre une petite visite sur l'antenne d'RMC. On continue bien sûr Radio Paddock avec Lucas. Lucas, alors ouais, un petit peu d'actualité
du rallye, notamment le rallye avec la 9e manche sur 13 du championnat du monde des rallyes. Ça vient d'ailleurs de se terminer puisque c'est Ott Tanak qui s'est imposé devant Neuville, Lapi et Sébastien Ogier qui réalise une mauvaise opération au championnat puisqu'il perd quelques points sur Thierry Neuville.
Mais effectivement, alors il essaye d'en récupérer quand même une partie avec la Power Stage. Enfin, Sébastien Ogier a remporté une Power Stage cette année. Ça n'avait jamais été le cas jusqu'à maintenant. Alors c'est vrai que on était avec lui la semaine dernière. Sébastien Ogier, rappelez-vous, on avait même été un petit peu plus loin en disant que l'Ebi sera en Espagne. Donc voilà, je tenais aussi à rectifier tout cela. Mais c'est vrai que c'est Ott Tanak encore une fois qui a dominé ce Grand Prix d'Allemagne. Je dis encore une fois pour deux raisons, Lucas. D'abord parce que c'était le vainqueur en titre. À l'époque, il était l'équipier de Sébastien Ogier sur la Ford. Et donc il reste vainqueur en titre de ce rallye d'Allemagne qui lui réussit fort bien, et puis encore une fois parce que il ne cesse de remporter des courses l'une derrière l'autre, puisque la précédente victoire c'était donc à l'occasion du rallye d'Allemagne. Donc on en est, c'est extraordinaire aussi dans ce championnat, 3 victoires pour Ogier, 3 victoires pour Neuville, 3 victoires pour Tanak. Il faudrait peut-être arriver bientôt à le mettre aussi dans les prétendants au titre à la fin de la saison. Ce n'est plus véritablement un duel entre Ogier et Neuville, même si ce dernier, bien sûr, comme tu viens de le dire, reste leader du championnat. Mais attention donc à Ott Tanak, et attention à Toyota au niveau constructeur également, puisque là aussi Toyota se rapproche de Hyundai.
Toyota qui montre que elle est de plus en plus performante, cette voiture. 136 points il a Ott Tanak, 149 pour Ogier, 172 pour Neuville. Il y avait 21 points d'écart entre Neuville et Ogier avant le rallye. Il y en a 23 maintenant. Il a quelque peu limité la casse en remportant cette Power Stage.
Tout à fait. Alors que jusqu'à hier après-midi, le rallye se passait fort bien pour Sébastien Ogier, hein, qui l'a dit. Lui, il a déjà joué son joker. C'était au Portugal. Donc, il n'a pas trop de joker à jouer. crevaison dans la plus grande spéciale et la plus fameuse spéciale de ce rallye d'Allemagne, la fameuse étape de Panzerplatte, hein, qui est dans le camp militaire. Crevaison, il perd pratiquement 2 minutes.
1 minute 30, ouais, c'est voilà, ça, 1 minute 30 pour changer la route.
Il se retrouve 9e au classement général, 7e à la fin de la journée. Franchement, de se retrouver 4e au terme de ce rallye, avec en plus les points de la Power Stage sur le, franchement, sur l'asphalte, il n'a pas laissé échapper cette belle occasion d'aller remporter 5 points supplémentaires, parce qu'on rappelle, c'est 5 points désormais, la Power Stage. Oui, comme tu le dis, il imite la casse, alors que normalement, il aurait dû, entre guillemets, mais avec DC, on refait toutes les saisons de sport automobile, forcément.
Bah, il termine à 1 minute 34 voilà. D'Ott Tanak. Il a perdu 1 minute 30 en changeant sa route.
Ouais. Normalement, c'était la deuxième place qui lui était quasi assurée et qu'il aurait assurée quoi qu'il arrive, alors que là, depuis cette crevaison, je peux te dire qu'il a pris d'énormes risques et qu'il s'est mis comme par hasard à remporter des spéciales, alors que il était plus ou moins quand même en train de gérer une situation qui lui était favorable, puisque hier après-midi, Thierry Neuville ne figurait même pas sur un possible podium.
On a quand même l'impression que cette année, les événements s'enchaînent pas forcément très bien pour Sébastien Ogier. Alors, de toute façon, la Hyundai met beaucoup de moyens, donc c'est normal qu'elle soit performante. De l'autre côté, la Ford l'est aussi, alors notamment grâce au talent de Sébastien Ogier, mais il y a toujours quelque chose qui vient, un petit caillou qui vient se mettre dans la chaussure du tricolore.
C'est un petit peu ça, parfaite analyse, Lucas. Effectivement, à chaque fois que l'on peut penser qu'il pourrait aller prendre des points et reprendre des points à Thierry Neuville, c'est un petit peu l'inverse qui arrive.
Il y a une autre compétition qui se déroule ce week-end sur le circuit de Silverstone, un circuit de F1, mais aussi d'endurance avec Fernando Alonso. Donc pas de F1 pour lui puisque c'est les vacances, mais du WEC, les 4 heures de Silverstone, les 6 heures pardon, de Silverstone. Fernando Alonso qui partait en deuxième position, mais c'est très serré entre la numéro 7 et la numéro 8.
Oui, les deux Toyota qui sont bien sûr en tête. Il y a retrouvé un certain Jenson Button également, son pote champion du monde, qui roule dans une écurie qui, elle, ne peut pas définitivement prétendre à la victoire finale puisque ce n'est pas une mécanique.
Sauf bris mécanique, ouais.
Voilà, sauf problème. Donc effectivement, pour l'instant, les deux Toyota sont en tête, mais pas celle de Fernando Alonso, qui pourtant a bien envie d'essayer une sorte de grand chelem, s'il y parvient, sur une saison qui, je vous le rappelle, est un petit peu particulière.
Super
c'est,
saison. Ouais.
C'est ce qu'ils appellent la super saison, qui terminera à la fin des 24 heures du Mans 2019. Donc, il y a du temps pour être champion. Il vise le titre également, Fernando Alonso, c'est clair. Il peut y parvenir sans trop de difficultés, sans doute. Mais bon, voilà, pour l'instant, ce n'est pas la numéro 8 qu'il partage avec Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima. Jima qui est en tête, c'est la voiture sœur. Mais bon, allez, on ne sait jamais ce qui peut se passer jusqu'à la fin. Et même s'il termine deuxième à une semaine donc de la reprise avec McLaren, il sera déjà bien content d'être sur un podium, je peux le penser.
On parlait tout à l'heure de transfert en F1. Un petit mot de Jean-Éric Vergne qui a annoncé avoir été approché par une équipe de Formule 1. Il a été champion de Formule 2, donc on peut se rendre compte, en tout cas, que la Formule 1 redonne du crédit à certains pilotes.
Effectivement, la Formule 1. Et puis, j'oserais également dire comme Fernando Alonso l'endurance, puisque même s'il a perdu la victoire sur tapis vert, il a terminé en tête des 24 heures du Mans dans la catégorie MP2. Et il a remporté la course d'European Le Mans Series hier sur ce circuit de l'équipe G-Drive. Donc effectivement, c'est actuellement un pilote qui a la cote, et un pilote qui a la cote, qui a déjà fait de la Formule 1, pourquoi pas y revenir, effectivement. En tout cas, merci Lucas pour ce tour d'horizon dans un Radio Paddock. Motors est terminé, je rappelle, la semaine prochaine, le direct avec le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, Jean-Luc Roy, Lucas Vinois et toute l'équipe d'RMC, la radio officielle de la Formule 1.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.